La géographie, c'est l'histoire dans l'espace et l'histoire, c'est la géographie dans le temps.
Les migrations en Afrique.
La vie en Égypte était devenue trop difficile, retourner au Soudan était trop dangereux, alors elle a tenté l'impossible. Franchir clandestinement avec ses enfants la frontière israélienne, aux côtés des Soudanais, des Ivoiriens, des Érythréens.
Lorsque les premiers Soudanais sont arrivés en Israël, un vif débat s'est engagé. Dans l'État hébreu, le simple emploi du mot « réfugié » est lourd de sens. Certains allèrent même jusqu'à parler des victimes de la Shoah soudanaise. Il est vrai que les guerres internes que le Soudan vit depuis le milieu des années 1950 ont multiplié les crimes de masse et provoqué une immense noria de déplacements. Mais d'autres pays d'Afrique, du Congo à la Somalie, ont connu des malheurs comparables, si bien que l'Afrique est aujourd'hui le continent qui compte les camps de réfugiés et de déplacés les plus nombreux au monde. Des camps si durables, si intégrés au dispositif humanitaire mondialisé, qu'ils enclenchent autour d'eux ce qu'il faut bien appeler des processus de développement. Le développement, d'ailleurs, appelle à la migration. Les migrants ne sont pas nécessairement des réfugiés et des déplacés. Beaucoup de paysans qui ont quitté leur village, de jeunes qui ont leur propre projet de vie, cherchent à rejoindre des pays à fort pouvoir d'attraction. L'Afrique du Sud est à cet égard une destination de choix, même si ses habitants ne sont pas toujours bienveillants. Et les grandes routes de passage de l'Afrique de l'Ouest, elles, mènent davantage vers l'Afrique du Nord.
La marche de l'histoire. France Inter, Jean Lebrun.
Avec Catherine Vitol-de-Vandenne, bonjour.
Bonjour.
Alors vous êtes la maîtresse d'œuvre d'un hors-série Histoire de la vie, qui est intitulé Migration, une aventure humaine. Depuis Homo sapiens, l'humanité est en marche. Et vous revenez, parce que vous êtes une voyageuse perpétuelle, non?
Je travaille aussi
hier soir, le Mexique il y a trois jours, vous revenez du Soudan.
Je suis allée au Soudan, effectivement, voilà. Il y a quelques semaines.
Alors, je ne vais pas vous présenter, on va consacrer la première partie de cette émission au cas soudanais, et ensuite on élargira à l'ensemble du continent comme une spécialiste du Soudan. Il est vrai d'ailleurs que c'est très difficile de démêler l'histoire du Soudan. Tout ce qu'on va dire va être grossier, contestable. La Grande-Bretagne a dirigé le Soudan de 1898 à 1956 et, comme souvent en Afrique, les puissances coloniales, en l'occurrence Londres, ont tracé des frontières qui sont contestables, créant un seul Soudan. Et en même temps, c'est toujours dans la tradition coloniale, les Britanniques jouaient les uns contre les autres, le Nord contre le Sud.
Bien sûr. Et aussi les populations arabes et les populations subsahariennes, avec un conflit aussi d'attribution. Les populations arabes étant plutôt des populations urbaines et les populations subsahariennes étant plutôt des pasteurs.
Quand l'indépendance intervient, le conflit est déjà latent et des guerres civiles vont se succéder, alimentées par une guérilla au sud. La première guerre civile finit en 72, la deuxième reprend en 83 jusqu'à un accord de paix en 2005. À quoi se joint justement pendant cette période du milieu des années 80 une série de massacres qui touchent au génocide à l'ouest du pays, ce qu'on appelle le Darfour.
Absolument, le Darfour c'est le plus grand camp du monde sans doute. C'est un pays, le Soudan, qui a eu 3,1 millions de déplacés internes. Une partie de ce camp qui est devenu une ville, une série de villes, a débordé d'ailleurs sur le Tchad voisin, puisque des gens cherchent aussi à migrer à côté, ce qui a fait du Tchad un grand pays d'accueil de ces réfugiés des camps du Darfour. C'est un pays en pleine mobilité interne aujourd'hui, avec de nouveaux arrivants, Érythrée, Somalie, et puis les gens du Sud-Soudan qui retournent au Soudan.
Il faut qu'on y vienne, parce que après le conflit Nord-Sud et l'accord de paix de 2005, une indépendance a fini par être accordée au dit Sud-Soudan. Souvenez-vous des reportages nombreux qu'on a entendus à cette époque. Ici, c'est une combinaison de plusieurs d'entre eux, avec beaucoup de France 24.
Un nouveau drapeau hissé devant le siège des Nations Unies, celui du Sud-Soudan.
Des dizaines de milliers de Sud-Soudanais en liesse célèbrent leur indépendance. Salva Kiir, le président du nouvel État, a prêté serment sur la constitution provisoire.
Je prête allégeance à la République du Sud-Soudan.
I shall be faithful.
Et je promets de lui être toujours fidèle.
And bear true allegiance to the Republic of South Sudan.
Le Sud-Soudan devient officiellement le 193e pays membre de l'ONU. L'Assemblée générale a voté par acclamation l'adhésion de cette nouvelle nation.
Et je déclare donc la République du Soudan du Sud admise à l'Organisation des Nations Unies.
Beaucoup de choses restent à construire au Sud-Soudan, mais les représentants des deux pays se sont engagés jeudi à résoudre pacifiquement les questions en suspens.
Nous sommes tous des Soudanais, nous sommes de la même famille, la famille est devenue plus grande. Elle a maintenant deux maisons, l'une au nord et l'autre au sud.
Restent pourtant des questions litigieuses, notamment l'exploitation des très riches ressources pétrolières du pays. Les vétérans de ce conflit qui a causé des millions de morts ont défilé dès vendredi dans les rues de la capitale, témoins vivants des massacres perpétrés pendant toutes ces années de conflit.
C'était en 2011 et la guerre s'est réveillée au Sud-Soudan, entre Sud et Sud, contestant le pouvoir du président dès la fin 2013. Alors, si on résume, vous étiez où, vous, Catherine Whittle de Vinden ?
Au Soudan, nord, donc, à Khartoum.
À Khartoum, un président qui, en principe, ne peut pas quitter son pays parce qu'il est sous mandat international. Il est inculpé de crimes contre l'humanité.
Mais il a été réélu avec 94,3% des voix.
Mais à ma connaissance, il n'était pas au Bourget à l'ouverture de la COP21. Et au sud, un conflit très violent. Alors, vous nous disiez, c'est un des pays d'Afrique, sans doute, qui a vu se multiplier le plus le nombre des réfugiés et des déplacés. Et il y a des camps innombrables. Vous avez vu un de ces camps ?
Oui, enfin, pas vraiment des camps, mais des lieux d'installation qui sont entre le camp et le bidonville, qui sont aux portes de Khartoum, qui sont soutenus par toute une série d'organisations internationales, la Croix-Rouge et quelques autres ONG, qui ne sont pas toujours bien accueillies, d'ailleurs, dans le pays, mais qui soutiennent très fortement toutes ces populations en situation de mobilité, soit pour s'installer, soit pour bouger et aller plus loin, puisque les grandes destinations...
On parlera après de leur destination, mais si voilà. On s'arrête un instant sur les camps et sur ce qui s'y passe...
C'est très très précaire, hein. Mais il y a quand même l'école, il y a quelques bus qui fonctionnent, ça peut être un grand bourbier, j'imagine, il faisait un temps sec quand j'y suis allée, mais quand il pleut, ça doit être quelque chose d'assez inimaginable. Les gens vivent sous des sacs de jute tenus par des morceaux de bois ou des quelques morceaux de ferraille qui servent de toit, donc c'est la plus grande de précarité.
En même temps, il y a des installations sanitaires.
Oui, de temps en temps, pas partout.
Mais est-ce qu'on peut dire que de ces camps vont naître des activités peut-être pas durables, mais qui sont celles d'une ville ?
Oui, parce qu'il y a des sortes de commerces, il y a des commerces dans les camps, si j'ose dire, qui sont pas vraiment, oui, qui sont une sorte de... C'est entre le bidonville et le camp, ce que j'ai vu, et c'est des... Et les gens vivotent, certains vont à leur travail en partant de là, donc ils ont des kilomètres à faire pour aller jusqu'au centre-ville, par exemple. Il y a des écoles, j'ai vu des enfants sortir de l'école dans ces ruelles qui sont celles des campements autour de la ville, par exemple. Il y a de temps en temps des bus qui descendent servent plus ou moins certains endroits. Donc il y a une certaine organisation sociale.
On peut entendre le témoignage d'une femme. C'est très important ce qui se passe pour les femmes, d'ailleurs, dans les camps. Leur rôle est capital. C'était un reportage de Jean-Philippe Lacaille en 2003 pour Arte.
Je vends du thé depuis que je suis arrivée ici. Je suis pauvre et je n'ai rien trouvé d'autre que ce commerce pour faire vivre mes enfants. Je vais aussi tous les jours récolter du fourrage pour le vendre au marché et ça me fait 30 ou 60 centimes en plus de ce que je gagne avec le thé.
Aïcha gagne ainsi entre 1 et 2 euros par jour. Pas de quoi vivre sans aide.
Je reçois un sac de sorgho, un gallon d'huile, des lentilles, du sucre et de la farine.
La distribution a lieu une fois par mois.
Mais un sac ne dure parfois que 15 jours. Après ça, il faut que j'en rachète encore 5 kilos, que je fais moudre. Ça me fait une ou deux boules de sorgho que je fais durer jusqu'à la prochaine distribution.
Aïcha ne peut vivre sans le secours de l'humanitaire et Aïcha a quand même son commerce.
Tout à fait. Mais il y a des tas de commerces improvisés que l'on voit au sortir des maisons pour la vie quotidienne. En fait, les gens se restructurent, se réorganisent, soit parce que c'est une installation provisoire mais qui dure, ce qui est souvent le cas, soit parce que c'est une étape vers une migration future, vers le Golfe, vers l'Égypte, vers d'autres destinations.
Alors, les femmes, vous insistez souvent, Catherine Vittel-de-Vinden, dans vos textes sur la part qu'elles ont dans les déplacements chez les réfugiés, chez les migrants économiques aussi.
Il y a plus de femmes que d'hommes dans la migration internationale. Aujourd'hui, il y a à peu près 51% de femmes. Donc, c'est une mobilité nouvelle, si j'ose dire, qui ne va pas nécessairement très loin, qui favorise les phénomènes à la fois de migration interne et de migration régionale, de voisinage dans les pays voisins. Ce n'est pas des gens qui vont traverser plusieurs continents, parce que souvent, elles ont des contraintes d'éducation des enfants qui sont autour d'eux. Elles assument une grande partie du quotidien dans ces camps et donc elles sont un petit peu la cheville ouvrière de quelque chose qui ressemble à une vie urbaine, à une vie sociale dans ces endroits particulièrement, disons, dépouillés.
Vous vous souvenez peut-être de l'apostrophe d'un journaliste, c'était pendant le conflit au Congo belge, ex-belge. Y a-t-il une femme qui a été violée et qui parle anglais ? Est-ce que vous êtes agacé quand vous voyez sans cesse dans les représentations qui sont faites des camps d'Afrique les stéréotypes concernant le viol systématique des femmes ?
Oui, enfin c'est un aspect qui est très important, surtout en situation de guerre. Moi, je suis pas allée au Soudan en situation de guerre, donc j'ai vu des femmes qui allaient chercher de l'eau, qui vendaient des petites choses pour la vie dans le camp. J'ai vu des jeunes filles qui revenaient de l'école, mais je n'ai rien vu d'exceptionnel dans leur situation. J'ai vu des femmes qui maintenaient un semblant de vie sociale et urbaine, vacant à leurs occupations.
Et qui étaient des traits d'union. Alors, vous parliez du Soudan comme étant aussi un lieu de rebond.
Alors moi, je suis pas du tout spécialiste du Soudan, je voudrais quand même le signaler.
Les Soudanais.
Mais alors, les Soudanais, comme beaucoup de pays africains, ont plusieurs pôles d'attraction migratoire. D'une part, ils ont le Golfe. Puisque le Golfe cherche de la main-d'œuvre, pour le bâtiment notamment. Et quand j'ai quitté le Soudan, il y avait dans l'avion où j'étais, qui allait vers Doha, une série de gens qui visiblement, avec leur sac à dos, étaient des travailleurs qui allaient travailler dans le Golfe, puisque le Golfe permet de gagner de l'argent, d'envoyer des transferts, puisque le Soudan est aussi dépendant de ces transferts de fonds. D'autre part, il y a d'autres destinations qui peuvent être l'Égypte et ensuite Israël. On en a parlé tout à l'heure, puisque Israël manque de main-d'œuvre et donc fait appel pour l'agriculture, pour le bâtiment, à ses ouvriers africains.
Fait appel, mais enfin, c'est quand même une entrée clandestine que celle des
c'est
Soudanais.
C'est une entrée clandestine, il y a aussi des saisonniers. Il y a aussi une migration saisonnière qui fonctionne de cette manière, puisque Israël ne veut pas nécessairement une installation définitive de cette population. Donc c'est plutôt du court terme, si j'ose dire. D'ailleurs, comme dans le Golfe, puisque beaucoup de ces travailleurs peuvent très difficilement pratiquer le regroupement familial. Ensuite, il y a d'autres pôles d'attraction qui sont les grandes routes de la migration transsaharienne, c'est-à-dire vers la Libye et ensuite vers l'Europe. Alors ça, c'est du voyage au long cours et ça concerne plutôt une migration masculine jeune.
Et vers le sud ?
Et vers le sud, éventuellement, aussi, il y a d'autres pôles.
L'Ouganda.
L'Afrique du... Voilà, l'Ouganda est un endroit aussi de destination, et puis aussi, beaucoup de pays africains, mais c'est pas nécessairement le cas des Soudanais, vont vers l'Afrique du Sud. Il y a deux grands pôles d'attraction en Afrique, en termes migratoires, qui sont d'un côté le Maghreb, soit comme transit, soit comme migration, et l'Afrique du Sud pour y travailler.
Alors, je vous propose que dans la deuxième partie de cette émission, en même temps que je rappelle que vous avez été la maîtresse d'œuvre.
J'ai juste écrit un article.
Et vous avez même écrit l'article final. Ne soyez pas modeste, Catherine Vittel-de-Vinden. Hors série, histoire, la vie, migration, une aventure humaine. On ne va pas beaucoup parler de l'Europe aujourd'hui, mais on va entendre, il va faire le lien entre le Soudan et l'Europe à sa façon, Alain Souchon. Vous vous souvenez de cette chanson du début des années 1990 ? Vous allez me dire que vous n'êtes pas spécialiste de la chanson.
Thank you. Je sais bien que rue Belleville, rien n'est fait pour moi. Mais je suis dans une belle ville, c'est déjà ça. Si loin de mes antilopes, je marche tout bas. Marcher dans une ville d'Europe, c'est déjà ça. Oh, oh, oh. Et je rêve que soudain mon pays soudain se soulève. Oh, oh. Rêver, c'est déjà ça, c'est déjà ça. Pour vouloir la belle musique, soudain mon soudain. Pour un air démocratique, on te casse les dents. Pour vouloir le monde parler, soudain mon soudain. Suis de la parole échangée, on te casse les dents. Oh, oh, oh. Et je rêve que soudain mon pays soudain se soulève. Oh, oh. Rêver, c'est déjà ça, c'est déjà ça. Oh, oh, oh. Et je rêve que soudain mon pays soudain se soulève. Oh, oh. Rêver, c'est déjà ça, c'est déjà ça.
La marche de l'histoire, Jean Lebrun sur France Inter.
Avec Catherine Vitol-de-Vinden, brève histoire des migrations contemporaines en Afrique. Alors vous disiez qu'un pôle très important, qu'un pays d'accueil prioritaire peut-être, c'était l'Afrique du Sud. Je ne sais pas si vous calculez en PIB ou en indice de développement humain. Vous...
Alors le Soudan est un pays parmi les plus pauvres du monde, enfin au titre de l'indice de développement humain, qui se mesure par trois critères, qui sont l'espérance de vie à la naissance, le niveau d'éducation et le niveau de vie en part du produit intérieur brut. Et donc, à ce titre, le Soudan et le Soudan Nord, si j'ose dire, le Soudan, est le 166e sur 187. Donc, c'est un pays particulièrement frappé par un déficit de développement
humain.
Alors,
quand on compare avec le PIB de l'Afrique du Sud... Le PIB de l'Afrique du Sud, est-ce exact, c'est pratiquement la moitié du PIB africain ? Ça me paraît beaucoup.
Oui, ça peut être, effectivement, parce que c'est un pays qui a beaucoup de ressources, déjà du sous-sol, et d'autre part, qui est très actif, qui a une main-d'œuvre qui vient de... Pas tellement, d'ailleurs, qui peut venir de cette région, mais qui vient surtout des pays voisins, des pays anglophones, qui sont les voisins de l'Afrique du Sud, à tel point que l'Afrique du Sud a construit un espace de liberté de circulation pour la main-d'œuvre dans les pays voisins, ce qui ne l'empêche pas de renvoyer, quand ces gens ont dépassé leur temps... de travail très souvent vers leur pays d'origine, les travailleurs en Afrique du Sud. Très souvent, il y a des opérations comme ça de reconduction musclée à la frontière, mais l'Afrique du Sud est dépendante de la main-d'œuvre des pays voisins.
Pourtant, il y a 50 millions d'habitants en Afrique du Sud.
Oui, mais il y a une main-d'œuvre très importante qui vient de tous les pays qui sont voisins de l'Afrique du Sud.
Alors,
parce que eux-mêmes sont pauvres.
Comment entre-t-on ? Il y a un visa ou...
Alors, il y a un système de liberté de circulation. Il y a un accord, un petit peu comme l'Europe, mais pas aussi développé que l'Union européenne. Il y a 22 espaces de libre circulation dans le monde, dont un qui couvre l'Afrique du Sud et les pays voisins. Il y a 4 ou 5 espaces de liberté de circulation en Afrique, il ne faut pas l'oublier, puisque c'est un continent qui est extrêmement mobile, et donc les populations qui viennent de pays pauvres vont travailler dans des pays qui ont des ressources. Et c'est le cas pour l'Afrique du Sud, avec ses voisins qui sont nombreux à venir y travailler, comme le Zimbabwe et quelques autres pays qui sont nombreux comme main-d'œuvre en Afrique du Sud. Mais c'est pas nécessairement une installation. Dans le passé, il y a eu une forte installation des Indiens, quand il y a eu la fin de l'esclavage, et puis surtout pour travailler la canne à sucre. Donc il y a une forte population indienne du Sud qui s'est installée dans le sud de l'Afrique du Sud, c'est-à-dire du côté de Durban, par exemple, mais pour le reste, c'est plutôt une migration qui fait des allers-retours, un petit peu comme à l'intérieur de l'Europe.
En témoigne ce reportage qui date de 2004, signé Éric Monnier pour France 2.
Lindela, c'est le Sangat sud-africain, le centre de rétention des immigrants illégaux. Pour beaucoup d'entre eux, le séjour ici se terminera dans quelques semaines par une reconduite à la frontière en train ou un vol charter vers leur pays d'origine. Les voisins mozambicains, zimbabwéens demeurent les plus nombreux. Mais la guerre civile a poussé nombre de Congolais à tenter l'aventure.
Nous ne voulons pas qu'on nous expulse. Nous voulons qu'on nous garde ici en tant que réfugiés, mais en nous donnant des statuts pour qu'on ne nous arrête plus.
Pour ce zimbabwéen, l'expulsion est déjà programmée dans la semaine à venir. Mais il a son plan.
C'est sûr que je vais essayer de revenir. En deux jours, je suis de retour ici.
En deux jours?
Oui, en deux jours.
Si tant d'étrangers tentent l'aventure sud-africaine, c'est que le risque en vaut la chandelle. Les exemples pullulent de ces immigrés qui affichent aujourd'hui une belle réussite sociale. Surtout chez les francophones, maliens, guinéens, sénégalais, considérés ici comme travailleurs et sans histoire. Prenez Roger, un couturier burkinabé. Dans ses bureaux du centre-ville délaissé par les Blancs, il a ouvert il y a 7 mois son atelier de confection. Officiellement, il est toujours demandeur d'asile, mais emploie déjà 11 personnes, des Ghanéens, des Camerounais et 3 Sud-Africains. Son style, très racine africaine, est très en vogue ici. L'ANC, le parti au pouvoir, est même un de ses clients. Sans papier et chef d'entreprise, tout semble donc possible en Afrique du Sud.
Disons, dans les années 60, comme nos vieux partaient en Europe, les choses étaient faciles. Mais à nos jours-là, pour aller en Europe, c'est pas facile.
Ça, c'est plus facile ici.
C'est plus facile pour venir en Afrique du Sud.
Alors, vous parliez des autres espaces économiques communs de l'Afrique. Il y a une communauté économique de l'Afrique de l'Ouest.
Oui, la CEDEAO.
Qui prône la libre circulation comme un moyen essentiel d'intégration. Et on entendait là un ressortissant francophone de l'Afrique de l'Ouest dire c'est plus facile d'aller en Afrique du Sud. Il y a quand même de grandes routes en Afrique de l'Ouest.
Oui, tout à fait. Mais d'une part, il y a des grandes routes pour poursuivre la migration vers les pays du Maghreb, qui sont un pôle très important d'arrivée ou de transit de ces migrants subsahariens, notamment le Maroc, par exemple. Mais à l'intérieur de l'Afrique de l'Ouest, on a aussi une intense mobilité. Et c'est une tradition qui est très ancienne, en réalité. Il ne faut pas croire que c'est depuis les années 90 que les gens se sont mis en route. La migration dans la région du fleuve Sénégal, par exemple, Mali, Mauritanie et Sénégal, c'est une migration ancienne qui ne va pas seulement en Europe, qui va au Maghreb, qui va aux États-Unis, qu'on en trouve dans toute une série de points de migration. Et donc, c'est une région qui est devenue, je dirais pas rentière, mais dépendante très fortement de sa migration et des transferts de fonds.
Dans le hors-série La vie sur les migrations, un reportage photographique raconte le parcours d'un Camerounais qui est parti de Yaoundé et qui arrive vers une ville clé qui s'appelle Agadez, au Niger, d'où peuvent venir aussi des Ghanéens, des Burkinabés, des Ivoiriens, voire des Nigérians.
Jusqu'à la dernière minute, le lieu de rendez-vous a été tenu secret. Pas question de filmer dans la cour de la compagnie de transport. Le propriétaire n'aime guère la publicité. Il n'en a pas besoin. Ses affaires sont florissantes. Sa spécialité, convoyer vers le nord, vers l'Algérie ou la Libye, ceux qui rêvent d'émigrer en Europe. De là, d'autres convoyeurs prendront le relais. À bord de ce camion, sur une trentaine de passagers, un tiers au moins sont des étrangers en transit. Ceux-là viennent du Ghana. Ils ne sont pas très causés.
Je vais rendre visite à des amis, après je retournerai chez moi.
Vous voulez aller en Europe?
Non, pas en Europe. Je vais jusqu'à Dirkou, c'est tout.
Aux portes du Sahara, Agadez est l'une des plaques tournantes de l'émigration clandestine. Pour beaucoup, c'est une première étape, le temps de gagner un peu d'argent afin de mieux repartir. Les commerçants d'Agadez ont vite compris quel bénéfice ils pouvaient tirer de cet afflux de voyageurs.
Vous êtes content qu'il y ait beaucoup de clandestins?
Beaucoup même. On est vraiment content.
Vous voulez que ça continue?
Ça continue toujours.
Chaque après-midi, à l'arrivée des autocars en provenance de Niamey, la capitale, des rabatteurs poussent dans les bras des passeurs, ceux qui veulent aller plus loin. À chacun son métier.
Mais envoyer des gens en Libye, c'est légal?
Bon, c'est pas illégal, quoi, tu vois.
C'est pas illégal.
Ouais.
Peut-être plus difficile maintenant, parce que d'Agadez, alors on va à l'est vers la Libye, et puis d'autres possibilités sont possibles.
L'Algérie aussi, ouais. Le sud algérien est une région de passage, de trafic aussi.
Et puis on peut aller vers l'ouest, et les Canaries et l'Espagne aussi.
Alors disons qu'on a deux grandes routes habituelles de passage à l'intérieur de l'Afrique, qui sont d'un côté Ouagadougou et de l'autre côté Agadez. Et c'est là qu'il y a deux routes qui se dessinent ensuite, l'une vers l'ouest qui consiste à aller vers le Maroc, et l'autre vers l'est qui est plutôt la Libye et puis ensuite les îles italiennes, Lampedusa.
Vous décrivez la situation en Afrique du Nord, la situation des migrants, comme étant une présence coincée.
Oui, tout à fait, parce qu'en fait, c'est pas seulement moi, c'est surtout des gens qui ont fait des thèses là-dessus, qui ont fait beaucoup de terrain, qui définissent cette situation, parce que les pays du Maghreb ont signé des accords avec l'Union européenne pour, d'une part, contrôler leurs frontières au nord, et d'autre part accepter la réadmission des sans-papiers qui sont passés par chez eux et qui sont arrivés en Europe. Il y a toute une diplomatie qui s'est développée ainsi entre les pays européens et les pays du Maghreb. Donc les pays du Maghreb sont tenus de contrôler leurs frontières au nord, ce qui les maintient dans une situation, ce qui maintient les migrants dans une situation complexe, parce qu'ils se retrouvent là sans nécessairement de projet. C'est pas des pays très riches, la situation du marché du travail n'est pas florissante, et donc ils attendent de pouvoir passer soit l'enclave espagnole du Maroc, Ceuta, Melilla, où il y a des campements qui sont installés aux abords dans la forêt. Et d'autre part, ils végètent parfois en s'installant définitivement dans ces pays ou en devenant eux-mêmes passeurs s'ils n'ont pas réussi à aller plus loin.
Donc, mais ces pays sont dans un cas de conscience, une contradiction, un petit peu comme l'Afrique du Sud, d'ailleurs, qui n'est pas toujours bienveillante pour les étrangers, alors que ces Noirs ont été victimes de l'apartheid. Les gens d'Afrique du Nord acceptent assez facilement que leurs enfants partent en Europe, ils acceptent moins facilement que des migrants viennent du Sud. En même temps, ils sont dans une transition démographique qui les obligera à accepter des migrants à terme.
Alors, c'est vrai qu'il y a cette dimension, mais c'est peut-être pas nécessairement l'argument qu'ils emploient le plus souvent. C'est vrai que la moitié de la population a moins de 25 ans au Maghreb. En Afrique subsaharienne, la moitié de la population c'est 19 ans. Donc là, il y a déjà un écart. Et puis, tout le Maghreb, comme les pays du bord méditerranéen, les autres, est dans une transition démographique. Mais surtout, un pays, par exemple, comme le Maroc, cherche à avoir une sorte de diplomatie dans l'ensemble de l'Afrique de l'Ouest. Donc, il ne peut pas complètement rejeter, s'il veut avoir une présence diplomatique dans ces pays, ces populations. Donc, il a commencé à régulariser une partie des sans-papiers, par exemple. Il essaye de commencer à pratiquer une politique de l'asile à l'égard des gens qui sont dans le pays. Il y a une situation qui n'est pas facile pour ces subsahariens qui se plaignent des discriminations, mais il y a quand même un début de définition d'une politique d'immigration dans ces pays du Maghreb.
Merci à vous, Catherine Vitol-de-Vinden. Je rappelle votre participation, La vie hors série, histoire consacrée à l'aventure humaine des migrations, votre atlas des migrations chez Autrement et toutes sortes de publications qui sont recensées, bien sûr, sur notre site. L'émission a été réalisée par Jacques Sigal avec Julien Chabassu à la technique et la préparation. C'était Guillaume Scaillet. Qu'est-ce que vous nous racontez de beau, Mathieu Vidard ?
Embryonnaire ou adulte, Jean, la promesse des cellules souches dans la tête au carré.
Merci, ce sera dans un instant.